Chapitre 13. Il a tiré leçon de ses erreurs. Paragraphes 1 et 2, question A. Dans quelle situation Yona et les marins se trouvent-ils et pourquoi? Question B. Pourquoi ce qu'a vécu Yona peut-il nous être utile? Yona donnerait n'importe quoi pour mettre fin à ces bruits terribles. Le vent déchaîné fait hurler les cordages et les poulies. Des vagues monumentales s'écrasent rageusement contre le bateau et font grincer la moindre planche. Mais bien pire à supporter sont les cris du capitaine et de son équipage qui se démènent pour maintenir le navire à flot. Yona est persuadé que ses hommes vont bientôt mourir à cause de lui. Comment Yona en est-il arrivé là? Il a commis une grave erreur. Il a désobéi à son Dieu Jéhovah. Qu'a-t-il fait exactement? Est-ce irréparable? Il y a beaucoup à apprendre des réponses à ces questions. Par exemple, ce qu'a vécu Yona nous montre que même ceux qui ont une foi authentique peuvent s'égarer, mais qu'ils peuvent aussi se racheter. Un prophète de Galilée. Paragraphe 3 à 5, question A. Sur quoi se concentre-t-on souvent au sujet de Yona? Question B. Que savons-nous des origines de Yona? Question C. Pourquoi la tâche de Yona n'a-t-elle rien de facile ni d'agréable? Quand on pense à Yona, on se concentre souvent sur le négatif. Il a désobéi et s'est même entêté. Mais il avait aussi de très belles qualités. N'oublie pas qu'il a été choisi par Dieu pour être prophète. Jéhovah n'aurait pas confié une responsabilité aussi lourde à quelqu'un d'infidèle ou d'injuste. La Bible nous renseigne un peu sur les origines de Yona.
Nous lisons en 2 Rois 14, verset 25. C'est lui qui rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole de Jéhovah le Dieu d'Israël, qui avait parlé par le moyen de son serviteur Yona le fils d'Amittai, le prophète qui était de Gath-Hépher.
Il est de Gath-Hépher, localité située à seulement 4 km de Nazareth, la ville où grandira Jésus-Christ quelques 800 ans plus tard. La note ajoute « Yona est originaire de Galilée. Cela mérite d'être souligné car les pharisiens ont déclaré avec arrogance en parlant de Jésus « De Galilée il ne se lèvera pas de prophète » Jean 7, verset 52. Pour de nombreux traducteurs et biblistes, les pharisiens ont procédé à une généralisation excessive en affirmant qu'aucun prophète n'était sorti ou ne pouvait sortir de la modeste Galilée. Si cette hypothèse est exacte, ces chefs religieux n'ont tenu compte ni de l'histoire ni des prophéties. Fin de la note. Yona est prophète sous Yarobam II, qui règne sur les 10 tribus d'Israël. L'époque d'Élia est bien loin. Son successeur Élisha est mort du temps du père de Yarobam. Jéhovah s'est servi de ses prophètes pour anéantir le culte de Baal, mais une fois encore, Israël s'est écarté volontairement du droit chemin. Le pays est sous l'influence d'un roi qui fait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah. 2 Rois 14, verset 24. La tâche de Yona n'a donc rien de facile ni d'agréable. Pourtant, il s'en acquitte fidèlement. Un jour, la vie de Yona prend un tournant décisif. Il reçoit de Jéhovah une mission qui lui paraît extrêmement difficile. Laquelle? Lève-toi, va à Ninive. Paragraphe 6, question. Quelle mission Jéhovah donne-t-il à Yona et pourquoi est-elle effrayante? Jéhovah demande à Yona « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle que leur méchanceté est montée devant moi. » Yona 1, verset 2. On comprend sans peine que cette mission peut sembler effrayante. Ninive se trouve à 800 km à l'est, soit à près d'un mois de marche. Mais l'expédition par elle-même ne sera pas le plus dur. À Ninive, Yona doit transmettre un message de jugement aux Assyriens qui ont la réputation d'être violents et même cruels. Vu qu'il a eu peu de succès auprès du peuple de Dieu, que peut-il espérer de la part de ses païens? Que pourrait faire un seul serviteur de Jéhovah dans cette immense Ninive que l'on finira par appeler la ville meurtrière? Nahum 3, versets 1 et 7. Paragraphes 7 et 8, question A. Pourquoi peut-on dire que Yona est déterminé à fuir sa mission? Question B. Pourquoi ne faut-il pas classer Yona dans la catégorie des lâches? Nous ne savons pas si Yona s'est posé ce genre de questions. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il fuit. Jéhovah lui a ordonné de se diriger vers l'est, il s'en va vers l'ouest, et aussi loin qu'il peut. Il descend sur la côte, dans une ville portuaire nommée Joppé, où il trouve un navire qui va partir à Tarsis. Si Tarsis se situe en Espagne, comme le pensent des biblistes, le prophète se rend à 3500 km de Ninive. À l'époque, un tel voyage à l'autre bout de la Méditerranée peut prendre un an. C'est dire si Yona est déterminé à fuir sa mission.
Nous lisons en Yona 1, verset 3. Mais Yona se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant Jéhovah. Il descendit finalement à Joppé et trouva un navire qui allait à Tarsis. Alors il paya le prix du transport et y descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant Jéhovah.
Faut-il pour autant classer Yona dans la catégorie des lâches? Ce serait le juger un peu vite. Nous allons voir qu'il saura faire preuve d'un courage remarquable. Mais comme chacun de nous, c'est un humain imparfait, avec bien des faiblesses. Qui de nous n'a jamais eu à lutter contre la peur? Paragraphe 9, question A. Quelle impression pouvons-nous parfois avoir? Question B. Quelle vérité ne devons-nous pas oublier? Nous pouvons avoir de temps à autre l'impression que Dieu nous demande des choses difficiles, voire impossibles. Par exemple, il peut nous sembler intimidant d'obéir à l'ordre de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. N'oublions pas cette vérité profonde énoncée par Jésus, « Tout est possible à Dieu ». Marc 10, verset 27. S'il nous arrive de perdre de vue cette vérité, sans doute comprenons-nous ce qu'a ressenti Yona. Mais quelles conséquences sa fuite a-t-elle? Jéhovah discipline son prophète. Paragraphes 10 et 11, question A. Qu'espère peut-être Yona alors que le navire s'éloigne de la côte? Question B. Dans quelle situation le navire se retrouve-t-il? Yona s'installe à bord du bateau, très certainement un navire marchand phénicien. C'est le départ. Il observe le capitaine et son équipage manœuvrer. En voyant la côte disparaître, peut-être espère-t-il avoir échappé au danger qu'il redoute tellement. Mais soudain, le temps se gâte. Des vents forts déchaînent la mer et soulèvent des vagues à côté desquelles même des navires modernes paraîtraient minuscules. En peu de temps, le vaisseau de bois ressemble à une coquille de noix perdue au milieu de vagues monstrueuses et de creux vertigineux. Yona sait-il alors, comme il l'écrira plus tard, que Jéhovah lui-même a lancé un grand vent sur la mer? En tout cas, il sait qu'il n'a rien à attendre des dieux que les matelots se mettent à invoquer. On lit dans son récit, « Quant au navire, il était sur le point de faire naufrage. » Yona 1, verset 4. Mais comment Yona pourrait-il prier le dieu devant lequel il fuit? Paragraphe 12, question A. Pourquoi peut-on comprendre que Yona se soit endormi? Question B. Comment Jéhovah révèle-t-il aux marins la cause de leurs ennuis? Désemparé, le prophète descend dans la cale, s'y allonge et s'endort profondément. La note ajoute, la Septante accentue l'idée que Yona dormait profondément en ajoutant qu'il ronflait. Cependant, n'en concluons pas qu'il était indifférent à ce qui se passait. Rappelons que parfois une forte envie de dormir saisit ceux qui sont extrêmement abattus. Par exemple, au cours des heures angoissantes que Jésus a passées dans le jardin de Gethsémané, Pierre, Jacques et Jean se sont assoupis de tristesse. Luc 22, verset 45. Fin de la note. Le capitaine le trouve, le réveille et lui ordonne de prier son Dieu, comme le font tous les autres. Convaincus que la tempête n'est pas d'origine naturelle, les marins jettent les sorts pour savoir qui à bord peut bien être la cause de leurs ennuis. Le sang de Yona doit se glacer tandis que les sorts déclarent innocents un homme après l'autre. La vérité ne tarde pas à être révélée. C'est contre Yona que Jéhovah dirige les sorts et la tempête.
Nous lisons en Yona 1, versets 5 à 7. Les marins prirent peur et se mirent à appeler à l'aide, chacun s'adressant à son Dieu. Et ils lançaient à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'en alléger. Mais Yona, lui, était descendu tout au fond du bateau ponté. Il s'était alors couché et dormait profondément. Finalement, le capitaine du navire s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu, dormeur ? Lève-toi, crie vers ton Dieu ! Peut-être que le vrai Dieu se souciera de nous et nous ne périrons pas. » Et ils se disaient l'un à l'autre « Venez et jetons les sorts pour savoir à cause de qui nous avons ce malheur. » Et ils jetaient les sorts et finalement le sort tomba sur Yona.
Paragraphe 13, question A. Qu'est-ce que Yona avoue aux marins ? Question B. Que recommande Yona aux marins et pourquoi ? Yona avoue tout. Il est un serviteur du Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. C'est parce qu'il a offensé son Dieu en fuyant que le danger menace. Les marins sont épouvantés. La terreur se lit dans leurs yeux. Ils lui demandent ce qu'ils doivent lui faire pour sauver le navire et leur vie. Que répond Yona ? Il doit trembler à l'idée de s'enfoncer dans ces eaux froides et agitées. Mais comment pourrait-il laisser tous ces hommes mourir, sachant qu'il peut les sauver ? Il leur recommande « Soulevez-moi et lancez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est sur vous. » Yona 1, verset 12. Paragraphes 14 et 15, question A. Comment imiter la foi de Yona ? Question B. Comment les marins réagissent-ils à la recommandation de Yona ? Ce ne sont pas là les paroles d'un lâche. Jéhovah a dû se réjouir de constater le courage et l'esprit de sacrifice de son prophète dans cette situation critique. En la circonstance, Yona révèle toute la force de sa foi. Nous pouvons l'imiter en faisant passer le bien-être d'autrui avant le nôtre. Quand quelqu'un est éprouvé physiquement, affectivement ou spirituellement, donnons-nous de nous-mêmes afin de le soutenir ? Jéhovah se réjouit beaucoup de nous voir agir de cette façon. Peut-être les marins sont-ils eux aussi touchés par la proposition de Yona, car dans un premier temps, ils refusent sa solution. Ils redoublent d'efforts pour se sortir d'affaire, mais sans succès. La tempête ne fait qu'empirer. Ils admettent finalement qu'ils n'ont pas le choix. Ils crient vers Jéhovah, le Dieu de Yona, pour qu'il ait pitié d'eux, puis ils lancent le prophète par-dessus bord. Yona obtient miséricorde et salut. Paragraphes 16 et 17. Question. Qu'arrive-t-il à Yona après qu'il a été jeté par-dessus bord ? Dans cette mer en furie, sans doute que Yona lutte pour se maintenir à la surface et qu'il voit le navire s'éloigner rapidement au milieu des flots. Les vagues finissent par l'engloutir. Il coule à pic, perdant tout espoir de survie. Yona décrira plus tard ce qu'il éprouve à ce moment précis. Des images lui traversent l'esprit. Il songe avec tristesse qu'il ne reverra plus le magnifique temple de Jéhovah à Jérusalem. Il a la sensation de descendre jusqu'au fond de la mer, aux bases des montagnes, où des algues s'enroulent autour de lui. Là semble être sa fosse, sa tombe.
Nous lisons en Yona 2, versets 2 à 6. De ma détresse, j'ai crié vers Jéhovah, et il m'a alors répondu. Du ventre du Shéol, j'ai crié au secours. Tu as entendu ma voix. Quand tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur de la haute mer, alors un fleuve m'a encerclé. Toutes tes vagues déferlantes et tes flots, sur moi ils ont passé. Et quant à moi, j'ai dit, j'ai été chassé de devant tes yeux. Comment contemplerai-je encore ton saint temple ? Les eaux m'ont encerclé jusqu'à l'âme, l'abîme d'eau m'entourait. Des algues s'enroulaient autour de ma tête. Jusqu'aux bases des montagnes, je suis descendu. Quant à la terre, ses barres étaient sur moi pour des temps indéfinis. Mais de la fosse, tu as fait remonter ma vie, ô Jéhovah mon Dieu.
Paragraphes 18 et 19, question A. Qu'arrive-t-il à Yona au fond de la mer et qui provoque ce retournement de situation ? Question B. De quel genre de poisson est-il question dans le livre de Yona ? Mais voilà qu'une masse sombre, immense, tourne autour de Yona. Elle se rapproche, et fonce sur lui. Une gueule gigantesque s'ouvre et l'avale tout rond. Ce doit être la fin. Pourtant, ce que ressent Yona est incroyable. Il est encore en vie. Il n'est ni broyé, ni digéré, ni même asphyxié. Le souffle de vie est toujours en lui, alors qu'il se trouve dans ce qui devrait être sa tombe. Peu à peu, une crainte respectueuse l'envahit. Il n'y a pas de doute. C'est Jéhovah qui a préposé un grand poisson pour avaler Yona. Yona 1, verset 17. La note ajoute « Le mot hébreu pour poisson a été rendu en grec dans la Septante par « monstre marin » ou « énorme poisson ». Il n'y a aucun moyen de déterminer avec certitude de quel genre d'animal marin il est question. Cela dit, on a observé en Méditerranée des requins assez gros pour avaler un homme. Ailleurs, on en trouve de plus gros encore. Le requin baleine mesure une quinzaine de mètres de long, voire plus. Fin de la note. Paragraphe 20, question. Que révèle la prière que Yona a prononcée à l'intérieur du poisson ? Les minutes passent, puis les heures. Dans l'obscurité la plus totale, Yona met de l'ordre dans ses pensées et prie Jéhovah. Sa prière, reproduite intégralement dans le deuxième chapitre de son livre, évoque les psaumes à plusieurs reprises. Elle révèle qu'il connaît très bien les Écritures. Il se dégage également de cette prière une qualité touchante, la reconnaissance. Le prophète conclut « Quant à moi, avec la voix de l'action de grâce, je veux sacrifier pour toi. Le vœu que j'ai fait, je veux m'en acquitter. Le salut appartient à Jéhovah. » Yona 2, verset 9. Paragraphe 21, question. Qu'a compris Yona en rapport avec le salut? Et que devons-nous nous rappeler? Jéhovah peut offrir le salut à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est ce que Yona a compris dans un endroit aussi étrange que l'intérieur du poisson. Yona 1, verset 17. Même là, Jéhovah a trouvé et sauvé son serviteur en détresse. Lui seul pouvait protéger quelqu'un pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Rappelons-nous que Jéhovah est le Dieu dans la main de qui est notre souffle. Daniel 5, verset 23. Nous lui devons le moindre souffle, notre existence même. Montrons-lui donc notre reconnaissance en lui obéissant. Paragraphe 22 et 23, question A. Comment la gratitude de Yona ne tarde-t-elle pas à être mise à l'épreuve? Question B. Comment imiter Yona lorsque nous commettons une erreur? Yona a-t-il appris à manifester sa reconnaissance à Jéhovah en lui obéissant? Oui. Au bout de 3 jours et 3 nuits, le poisson s'approche de la côte et vomit Yona sur la terre ferme. Yona 2, verset 10. Après tout ce qu'il vient de vivre, Yona n'a même pas à nager jusqu'au rivage. À partir de la plage où il échoue, il n'a plus qu'à trouver son chemin. Mais sa gratitude ne tarde pas à être mise à l'épreuve. Alors la parole de Jéhovah vint à Yona pour la deuxième fois, disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-lui la proclamation que je te dis. » Que va-t-il faire? Il n'hésite pas. Yona se leva donc et alla à Ninive selon la parole de Jéhovah. Yona 3, verset 3. En un mot, il obéit. Il a tiré leçon de ses erreurs. Nous devons imiter la foi de Yona sous ce rapport également. Tous nous péchons. Tous nous commettons des fautes. Renonçons-nous ou bien tirons-nous leçon de nos erreurs et nous mettons-nous à servir Dieu avec obéissance? Paragraphes 24 et 25, question A. Quelle récompense Yona a-t-il déjà reçue? Question B. Quelle récompense attend de Yona? Jéhovah a-t-il récompensé Yona pour son obéissance? Assurément. D'une part, il semble que le prophète a fini par savoir que les marins avaient survécu. La tempête s'étant calmée immédiatement après qu'ils ont jeté Yona à l'eau, ces hommes ont eu très peur de Jéhovah. C'est à lui et non à leur faux Dieu qu'ils ont offert un sacrifice. Yona 1, versets 15 et 16. D'autre part, une grande récompense est venue bien plus tard. Jésus s'est servi du temps que Yona a passé dans l'énorme poisson comme d'une image prophétique de son propre séjour dans la tombe. ou Sheol.
Nous lisons en Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, lui adressant la parole, quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent « Enseignant, nous voulons voir un signe qui vienne de toi. » En réponse, il leur dit « Une génération méchante et adultère recherche sans cesse un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car de même que Jonas a été dans le ventre de l'énorme poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. »
Jonas se réjouira sans aucun doute quand il l'apprendra, une fois ressuscité pour la vie sur la terre. Jéhovah souhaite te bénir, toi aussi. Comme Jonas, tireras-tu le son de tes erreurs? Seras-tu obéissant et feras-tu passer les intérêts des autres avant les tiens? Qu'en penses-tu? Comme Jonas, as-tu déjà eu peur d'accomplir une mission que Jéhovah t'a confiée? Pourquoi peut-on dire que Jéhovah a enseigné l'obéissance à Jonas avec patience et miséricorde? Comment Jonas a-t-il montré qu'il a tiré le son de ses erreurs? Comment comptes-tu imiter la foi de Jonas?